Eh bien, bonjour à tous. Oula, on m'entend très bien, j'ai l'impression. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de tous vous voir ici. Je suis ravi surtout d'animer cette conférence avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Je suis très content d'être là parce que j'ai déjà posé mes valises et mes couteaux pendant 4 jours à la maison de la radio. Il faut savoir que cette journée, elle synthétise un petit peu ma vie. J'étais en service au déjeuner au Radio Hits, au restaurant de la maison de la radio. Pendant le service, j'écoutais des artistes que j'aimais beaucoup, dont celui qui va venir dans quelques temps me rejoindre. Ensuite, je le retrouve en interview avec lui. Puis là, après, juste après, je remets le tablier. Je suis en service aussi ce soir au restaurant de la maison de la radio. Donc, c'est globalement ma vie. Elle s'articule entre musique et gastronomie depuis quelques années maintenant. J'ai commencé journaliste, j'ai fini cuisinier, finalement je suis à nouveau journaliste et parfois je suis à nouveau cuisinier. Tout se mélange un peu, mais on va justement raconter ces deux mondes parce que, à mon sens, ils se mêlent et s'entremêlent plutôt bien. J'ai d'ailleurs raconté dans un super livre qui s'appelle Bouche à oreille, que j'ai écrit avec AR Studio, qui est le studio d'Universal Music. C'est un livre où on s'est dit que c'était rigolo de tisser des liens et de faire des ponts entre deux mondes finalement qui peuvent très très bien s'entendre, à savoir la gastronomie et la musique. Et vous allez voir, j'espère, avec la conférence et l'interview qu'on va faire, que ces mondes sont faits pour s'entendre. De ce livre est né le sujet de la conférence, et pour l'inviter, l'idée m'est venue plutôt comme une évidence. L'artiste que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui m'a toujours beaucoup touché, parce qu'il est selon moi rare de sentir autant la vérité de quelqu'un à travers ses morceaux. N'étant pas, moi, friand des étiquettes qui enferment un peu les gens et qui limitent les champs d'action, j'ai du mal à catégoriser en simple rappeur, et je crois que ça lui va pas trop mal, vu les terrains que Turi, c'est son nom, tente constamment d'explorer. Comment ne pas aimer ce mec, surtout quand on est cuisinier, parce que Turi est un artiste qui remue et qui mélange, et je suis très heureux de l'accueillir sur scène. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît ?
Salut Paris, est-ce que ça... Ah, vous êtes obligés de regarder le clip.
On est tous obligés de...
Et en exclusivité sur le plateau des Amants Terribles Show, accompagné des Chemises Boy, le tout nouveau single de Turi, Lundi. Vas-y mon pote, balance la sauce.
T'assumes ça? Le balance la sauce, juste le balance la sauce. Ah.
J'pourrais fuck avec toi du lundi au lundi. C'est normal, t'es mal la taille du culo. J'pourrais te faire l'amour du lundi au lundi. Comme un 8 à 7, t'as problème, j'fais le boulot. J'ai besoin d'une raclée qui vit la nuit, qui m'appelle papy. T'es brûlante comme Notre-Dame, ça sent Amsterdam dans ta cage d'escalier. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir comme Mike. Elle dit que je fais du son de bar. Alors elle pas mâché. Elle a posé son doigt près de ma casquette. Ok, ok.
Pourrais fuck avec toi du lundi au lundi.
C'est normal de ma taille du coulo.
Pourrais te faire l'amour du lundi au lundi.
Comme un 8 à 7, t'as problème, j'suis le boulot.
J'ai besoin d'une rapide.
Ça s'applaudit, j'allais dire quand même, on peut applaudir Turi parce qu'on a vraiment apprécié ce morceau et ce moment. Comment ça va Turi ?
Bah écoute, ça va.
Ouais.
Ça va. Je suis très très content d'être là, d'être parmi vous et j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Ah. Vous êtes tous invités au restaurant justement.
Ouais. assez frais, évidemment. Alors, bon, on a vu ce joli clip de lundi issu du dernier album qui est sorti l'année dernière en 2025, Amant Terrible. T'es un amant terrible, toi ?
J'essaye de m'améliorer.
Ouais.
Mais ouais, j'ai très très longtemps été cet hyper loser sentimental.
Mmh. Mais justement, en parlant d'amant, on va justement reprendre les tout débuts de tes premiers flirts avec la musique. À quel moment t'as commencé à te dire que ce truc-là, c'était pas mal ?
Alors, j'ai pas un souvenir précis, mais je sais que ça vient des disques de ma mère. De toute façon, j'étais cerné. C'était soit les disques de ma mère, soit ceux de mon père. Ma mère, c'était très, très Prince, Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman, Brel. Tu vois, des trucs assez différents. Earth, Wind and Fire. Très éclectique.
Ouais, je parle de souvenirs justement parce que ça déjà c'est un peu de là où on puise un peu les origines de sa création plus tard. Ouais. Les origines et enfin les souvenirs ils prennent vie dans un foyer. Ouais. Dans ce foyer il se passe plein de choses. On écoute des choses, on goûte des choses, on sent des choses. Ces souvenirs là pour toi ils sont assez entremêlés aussi. On parlait un petit peu en off de la cuisine notamment de ta maman. Ouais. Tout ça c'est un peu mélangé dans ta tête justement la musique, les sons, les odeurs.
Ouais, forcément. Tu sais, il y a certains CD qui allaient bien avec le ménage du dimanche, par exemple.
Ouais.
Tu vois, il y a certains CD, c'était très lié à la cuisine et surtout le petit côté où t'attends, tu sens ce qui mijote là, tu vois.
Ouais. Bon,
ça te permet un peu de patienter. Donc oui, ça a déjà été la BO
c'est ça.
De la prépa.
Est-ce que justement, tu étais capable déjà de reconnaître ce que vous alliez manger juste à l'odeur en rentrant ? Oui, j'avais ce don.
Ouais, bien sûr, je l'ai toujours.
Ouais.
Je l'ai toujours.
Mais justement, tu me racontais être quand même biberonné aux bonnes choses.
Ouais.
Comment on grandit quand on est tuerie justement avec cette culture culinaire ? Et justement, quels étaient les premiers émois culinaires au même titre que les premiers émois musicaux ?
Les premiers émois culinaires. Je pense que juste en me regardant, bon, ça se voit que je mangeais bien. OK.
Ouais.
Mais je dirais que ma mère particulièrement a vraiment un point fort. C'est, tu sais, les recettes un peu farfelues, le mélange du sucré salé.
Ouais.
Par exemple, ma mère adore faire tarte poire bleue.
Ok, un classique en même temps.
Ouais, mais...
On entend, ça va, c'est accepté.
Ouais, mais d'où je viens quand on voit ça, c'est Kaira, tu vois. Okay. Est-ce qu'elle est sûre ?
Mm-hmm.
Et par exemple, je fais partie aussi du cercle très fermé des gars qui aiment la pizza hawaïenne.
Ok,
qu'est-ce qui se passe ?
Sacré, je pense que
je m'en vais.
Je pense que ouais, il y a deux trois qui ont voulu faire un truc avec toi. Il y a eu une embrouille qui a commencé à démarrer,
voilà.
mais figure-toi que je peux l'accepter moi aussi, ça va.
Voilà.
Ouais, j'avoue que je peux l'accepter.
Donc ouais, c'est surtout ce truc sucré-salé.
Eh ben transition presque toute trouvée sur. J'en parlais un petit peu en intro, mais sur ton plaisir du mélange. Alors
ouais.
Musicalement, alors là la porte elle est grande ouverte justement parce que. T'as jamais trop mis de limites dans tes influences, dans les sonorités que tu peux piquer à divers genres. Bonjour monsieur.
Hey.
Et d'ailleurs, t'as même pas forcément commencé dans le rap, t'as plus commencé même dans le rock dès le début, non ?
Ouais, en fait, j'ai toujours hésité entre ces deux styles. Enfin, pas toujours, mais dans mes débuts,
mm-hmm.
C'était un petit peu le combat, savoir où j'allais. Et puis, il y a des artistes comme Fred Durst,
ouais.
qui est le chanteur du groupe Limp Bizkit, qui mêlait les deux,
ouais.
le rock, le rap. Donc, je savais déjà que c'était possible. Vous regarderez un petit peu Fred Durst et vous comprendrez le truc de la casquette à l'envers, mm-hmm. Des gros pantalons, tout ça. C'était lui déjà à l'ancienne.
Avant Linkin Park et Jay-Z, quand ils avaient fait la collab aussi.
Bien avant, tu vois. Et je pense que ça a été que le choix s'est fait après une grosse période Eminem m'a marqué. Déjà l'histoire du gars s'est résonné avec mon histoire, le fait de se débrouiller avec une daronne. On était hyper tu vois, nomades. Il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de déménagements.
Ouais.
Une histoire pas facile. Et il s'exprimait et il se défendait avec les joutes verbales, avec le battle rap. Et en fait, j'ai commencé par ça. Puis plus tard, le côté rock m'a très vite rattrapé parce que je déteste faire de la musique seule. Donc il fallait que j'ai un live band très tôt. Et voilà.
Donc t'es un peu comme moi, t'as regardé 8 Miles et tu t'es dit ça va être moi.
Tu sais que les rappeurs ont honte de dire que c'est grâce à ce film qu'il s'est passé un truc.
Ouais.
Ben moi oui.
Ouais, je crois que ça doit sortir en 2002, si je dis pas de bêtises, on demandera la vérification, mais je crois que ça sort en 2002.
Ouais,
et vrai moment pour justement aussi une génération où on se dit qu'en fait on arrive aussi à se créer une personnalité par la musique.
Exact.
En revenant justement à ces mélanges-là, tu parles d'un attrait particulier pour le rock, mais finalement, après, avec le temps, et ça s'est encore plus affiné, notamment dans Les Amants Terribles, t'oses quand même flirter avec un milliard de genres,
ouais,
tant que ça te plaît finalement à l'oreille, et on affine un peu aussi la patte tuerie. C'est-à-dire que, est-ce que tu as l'impression déjà d'avoir aujourd'hui ton style? Ce qui est déjà une petite fierté quand on est artiste.
Je suis content d'avoir une espèce d'empreinte vocale.
Okay.
Et je suis aussi très fier d'avoir un public, des auditeurs hyper intelligents émotionnellement et qui sont capables de comprendre mes choix musicaux parce que j'ai fait le choix de ne jamais choisir. En réalité, par exemple, la couleur de cet album Les Amants Terribles, la dominante est un
rose.
Petit R&B, tu vois. Pourtant, les gens m'ont jamais autant entendu chanter que sur ce projet. Et puis voilà, je pense que j'ai pas fâché trop de monde. Et le prochain, ça sera encore autre chose.
Justement, le fameux gynéco disait « Classez-moi dans la variété ». Aujourd'hui, est-ce que déjà...
Attends, excuse-moi, si je ne réponds pas aux questions, vous pouvez dire « Attention, Renoir, t'as pas répondu à la question.
» Zéro l'interrompt.
S'il vous plaît, n'hésitez pas.
Je...
Est-ce que ça allait pour vous déjà? Ouais.
Merveilleux. Okay. J'ai l'air très content. Ils boivent tes paroles, vraiment, ils sont en silence. C'est religieux. Juste parce qu'il fait du gospel, ça devient très religieux d'un coup. Justement, donc on parlait de gynéco, de ce qui voulait être classé dans la variété. Toi, justement, est-ce que tu as envie d'être classé aujourd'hui ou est-ce que tu as justement envie de garder cette liberté propre à toi, qui est quand même un peu un ovni. Je sais que c'est un peu un terme qu'on entend beaucoup à tort et à travers, mais en tout cas, ouais, le côté ovniesque de ta performance artistique, c'est aussi ce que tu as envie de défendre. Mais est-ce que c'est pas le truc auquel tu vas aussi t'enfermer à terme pour dire « je vais vraiment me mettre en marge » ?
Non, en fait, je pense que j'ai toujours détesté les cages aussi belles qu'elles soient.
Mmh.
Après, j'ai un petit dédoublement de la personnalité. quand j'entends ou que je lis trop, c'est un mec qui chante trop ou c'est plus du rap et tout, ça me fâche.
Ah.
Tu vois, ça me fâche. Donc,
t'en as pas rien à faire.
Non, j'en ai pas rien à faire.
Ouais, ouais,
et je suis archi susceptible.
Ouais, j'allais dire, t'es libre mais sensible.
Exactement. Merci, je suis libre mais sensible.
Ce sera son prochain album.
c'est totalement ça, tu vois.
Ouais, donc typiquement, si on fait un peu le parallèle avec la cuisine, c'est comme si, effectivement, je m'évertue à créer des plats, mais finalement, même si je me dis... Bah, je trouve ça bon, ça va leur plaire. Si ça leur plaît pas, j'ai un peu le seum quand même.
Exactement.
Mais pourtant,
exactement. Le plus important, c'est que toi, tu kiffes.
Ouais.
En tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour ma musique. malheureusement, je pense pas trop aux gens qui m'écoutent au moment où je crée. Parce que déjà, il y a tellement de compromis dans la musique qu'on ne peut pas se laisser dominer ou laisser son esprit être pollué par, par ça lors de la créativité. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime. Mmh. Et il faut que ça nous plaise d'abord. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, bon, si ça me plaît, ben, ça va certainement plaire à deux, trois personnes.
Bon, je crois que et, ça puis, un peu.
Et puis voilà, on se retrouve à avoir des auditeurs qu'on reconnaît, puis de plus en plus de monde. Et voilà, je ne sais pas si c'est comme ça pour...
Si, c'est ça. Et puis de toute façon, je pense que l'accès direct aussi aux choses, c'est-à-dire que nous, quand on fait à manger, on a la chance de voir les gens tout de suite aimer ou ne pas aimer. Mais en tout cas, bon, j'espère pour la plupart aimer ce qu'on fait. Alors qu'effectivement, avec la musique, c'est tellement aussi distancié. Il faut attendre le moment du concert pour avoir une vérité.
Exactement. Et il faut savoir que c'est une étape assez angoissante. Si je prends le projet précédent, qui est Papillon Monarque, la tournée était très rapprochée. Donc du coup...
T'as tout de suite senti le truc immédiat.
J'ai tout de suite senti, voilà, exactement. Et c'était assez palpable. Mais là, entre cet album et la tournée, c'était assez éloigné. Donc, oui, j'étais content d'être rassuré par les messages que je recevais. Et il faut savoir que c'est des vagues différentes. Il y a des semaines où il y en a moins, il y a des semaines où il y en a plus. Mais c'est assez angoissant. Et puis, on est libéré au moment du live quand on entend les gens... rechanter des trucs qui sortent de nos chambres ou du studio, ben directement c'est la plus belle récompense. Donc je sais pas si toi après préparation tu te caches quelque part et tu regardes les gens grailler un petit peu. Tu vois.
Franchement c'est un vrai plaisir, mais effectivement oui je fais ça. Voilà. Et oui je fais ça et surtout effectivement le entre mijoter quelque chose dans sa tête, même avant même de faire dans la casserole, mais même dans sa tête, et voir derrière, entre guillemets, la réalisation, la concrétisation de ces idées-là, qui peuvent parfois plaire aux gens, c'est assez plaisant. Et en même temps, on doit dealer, c'est justement ma prochaine question, avec aussi une notion un peu d'héritage. C'est-à-dire que dans la cuisine comme dans la musique, on fait tout simplement un art que beaucoup de gens ont fait avant nous. Comment on arrive justement à dealer avec cet héritage qui est encore plus lourd, je trouve, en musique ? C'est-à-dire que typiquement, si on se dit, Thury fait du rap, bah, il peut pas faire n'importe quoi s'il fait du rap. C'est-à-dire que c'est obligé, t'es quand même un peu cadré dans des paramètres, en tout cas, qui font que, ok, il fait vraiment du rap. Ouais. Et par ailleurs, il y a d'autres gens aussi avant toi qui ont ouvert la voie en prenant des risques, qui ont été un petit peu aussi un peu marginalisés. Typiquement, MC Solar, 94, il sort Proscombat, il y a déjà des chœurs, il y a déjà un peu de gospel, il y a déjà des premières notes qui sont pas forcément purement du rap, et ils sont un peu pointés du doigt. Toi, justement, aujourd'hui, comment tu arrives à vivre avec, à gérer cet héritage-là, et à la fois aussi plaire aux gens qui font aussi ta musique et aux nouveaux qui arrivent ?
Je suis content que tu me poses cette question, parce que moi, je suis originaire de Boulogne-Billancourt, qui est une des capitales du rap.
Bien sûr.
Il faut savoir qu'à Boulogne, ça rappe très dur.
Ouais.
C'est assez sombre comme rap. C'est des héritiers du Queensbridge,
bien sûr,
à New York.
Ouais, ouais.
Donc c'est très grosse doudoune, Timberland, les Rat P, pour ceux qui connaissent.
Voilà. Voilà. Regarde en chien de faïence.
Voilà. Et moi, déjà, il y avait un peu plus de... J'avais une musique qui était déjà un peu plus solaire, où il y avait beaucoup plus de mélodies, alors que tous les mecs que je regardais rapper, tous mes anciens, que ce soit Salif, Booba, Zoxy, Danny Dan, Eliem, etc., et j'en passe, avaient ce rap hyper dur. Donc,
c'est vrai que si on écoutait Eliem et Thury après, bon, c'est vraiment le plat, c'est le dessert.
Voilà, tu vois. Et... En gros, moi, il faut savoir que on me surnommait Sarwell.
C'est vrai ?
On me surnommait Sarwell
à cause de...
dans la ville parce que ma musique était, entre guillemets, plus funky que les autres. Tu vois, c'est donc c'est, ça m'a filé des complexes. Et avant de sortir des morceaux, j'y réfléchissais vraiment à 15 fois. Et à force de persévérance, en créant mon propre couloir, ça a forcé le respect des anciens. Et aujourd'hui, je suis content parce que justement, les mêmes m'envoient des messages en me disant, en fait, t'avais raison de persévérer dans ce truc-là. Quoi.
Justement, tu parles de... Alors, ces anciens, c'est marrant, parce que là, on peut encore aussi faire le parallèle avec la cuisine. C'est-à-dire que, mine de rien, il y avait un truc un peu dur, comme tu le dis très bien, mais qui était aussi un peu lié au fait d'être un homme. Il fallait aussi être un peu dur pour être un homme et pour s'affranchir, exactement, et pour s'imposer.
Ouais.
C'était globalement la même chose en cuisine, et je pense que les gens ont eu écho des violences, etc., en cuisine, et même d'une sorte de masculinité toxique en cuisine. Finalement... En cuisine comme en musique, on a l'impression qu'on arrive là à un tout petit peu bouger ces codes-là, mais en même temps, avec pour presque cheval de bataille, de mettre la sensibilité au milieu de la création.
Ouais.
Ça, justement, comment t'arrives à parler autant de sensibilité? Comment t'arrives justement à garder cet ADN rap et tout en parlant de sensibilité?
Tout simplement... parce que il faut leur rendre leurs fleurs. Il y a des artistes qui m'ont prouvé qu'on pouvait raconter son histoire sans forcément rentrer dans ce costume de d'acier.
Ouais.
Et je pense à des Lauryn Hill, par exemple.
Bien sûr.
Je pense à des ça m'énerve, mais je vais le dire. Je pense à Drake. Voilà. Je pense à Kendrick. Et ce sont des artistes qui m'ont fait comprendre que en exposant son talon d'Achille, pardon, c'était aussi une force. Ouais, c'était une force d'exposer ses faiblesses ou ses manquements ou ces traumas, et moi, au moment où je le fais, pour la première fois, c'est sur mon premier EP Bleu Gospel, et c'est tout simplement le process qui me sauve la vie, parce que je pense à ce moment-là que je fais de mon art une thérapie. Bon, maintenant, j'insiste, je préfère dire aux gens, c'est pas suffisant.
Okay.
C'est pas suffisant, ok, mais... c'est quelque chose qui m'a aidé personnellement. Et après, ça m'a aidé aussi à trouver un public.
Il y a aussi, j'ai l'impression, une étape qui t'a permis plus d'être à l'aise avec cette fragilité, c'est la paternité. En tant que papa, comment on arrive à éduquer justement son fils tout en faisant du rap, mais en même temps en étant sensible, tout en essayant de laisser la place à d'autres expressions plus artistiques et plus considérées comme fragiles?
Ben, tout simplement en lui expliquant que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions dans ma musique. Et voilà, quand il y a un petit être comme ça qui lui arrive, qui nous arrive, on a envie de... On a envie de lui éviter les pièges. Ça devient même une mission primordiale. Donc voilà, ça a été à moi de déconstruire tout de suite et d'essayer de ne pas répéter certaines boucles. Et voilà, ça donne un petit garçon épanoui, spontané, à l'aise avec ses sentiments, à l'aise avec sa sensibilité, même si s'il n'est pas encore totalement au contrôle. Mais voilà, c'est ok d'être en colère, c'est ok de pleurer, c'est ok de l'exprimer, c'est ok de rire très très fort sans s'excuser.
Ouais.
Puis Voilà, tout plein de choses, quoi.
Et justement, au rayon éducation, la gastronomie et la bouffe prennent beaucoup de place.
Là, ça va devenir problématique.
Et là, on va voir vraiment si t'évites de répéter les boucles. En termes de cuisine, comment on éduque justement son enfant maintenant qu'on est un peu plus au fait des besoins et de l'équilibre nécessaire?
Voilà, c'est simple. Le papa a le bon rôle dans ce cas-là. Mmh. Moi, c'est les restos, les fritures, tout ça. Maman va t'apprendre que les légumes, c'est...
Il faut un peu de fibres.
Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, en fait, là où moi, je suis facilité par Isaiah, c'est qu'il est hyper passionné par le sport, par le foot en particulier. Et il y a juste à lui dire Ronaldinho, il mangeait des légumes, ou Cristiano...
Ça passe.
Cristiano adore les brocolis et, okay. Et c'est bon. Et il fait même semblant d'aimer le truc. Mais je le vois. Tu vois, c'est un sourire un peu.
Oui.
Tu sais, quand tu manges.
Pour te faire plaisir.
Voilà. Merci. Mais je suis content que lui ait cette éducation, justement, alimentaire. Moi, c'est pas pour jeter la pierre sur mes parents, mais c'est vrai que oui, on privilégie les bonnes choses et très souvent ce qui est bon est mauvais.
Ouais, en tout cas ce qui est en abondance.
En abondance,
c'est pas. Justement, t'as des. On parlait de tes parents. Tu viens de parler de tes parents. Tu es né au Cameroun.
Ouais.
Comme beaucoup d'enfants qui ont des origines ou qui ont parfois été déracinés, parce que toi c'est le cas. Vous avez fait des allers-retours entre le Cameroun et la France pendant quelques temps. À quel moment justement? Enfin, est-ce que ça a été dur parfois de gérer justement ce rapport aux origines? Et deuxièmement, à quel moment tu as basculé entre la peur et la fierté de ces origines-là?
Je dirais pas que j'ai jamais eu vraiment peur,
okay.
À part lors des rendez-vous à la sous-préfecture.
Oui. Effectivement, un peu stressant.
Il y a toujours quelqu'un derrière un guichet qui a tous les pouvoirs. Mmh. Et à ce moment-là, c'est un peu flippant. Mais en réalité, je pense que ces allers-retours-là m'ont juste enrichi. Tu vois, parce que voilà, de mes 2 à 7 ans, j'étais ici. Puis je suis reparti au Cameroun jusqu'à mes 14 ans et je suis revenu. Donc voilà, ça m'a permis de connaître tout simplement mon pays et de revenir avec un accent et que mes camarades se moquent un petit peu de moi quand je reviens et parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai deux prénoms, enfin j'ai un nom composé en réalité.
Moi je connais Paul,
qui est Paul. Le deuxième c'est Frédéric.
Ok,
voilà. Donc
Paul Frédéric.
Paul Frédéric.
Avec un tiret.
Donc au Cameroun, c'était Frédéric. Okay. Ici, c'était Paul. Okay. Quand je reviens, je dis que je m'appelle Frédéric. On me dit non, on te connaît. Tu t'appelles Paul. C'était un petit peu. Comprends. Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Mais, les allers-retours, en réalité, ça m'a enrichi. Et c'est tout. En réalité, j'ai été très vite, très, très fier. De mes racines, parce que je voyais toute la force et les valeurs que ça comportait.
Tu parles justement de la sous-préfecture et de... c'est pas pour faire, non, on va pas être misérabiliste, mais c'était pas non plus l'enfance la plus facile qu'il soit.
Ouais.
Ce truc-là de la débrouille, parce que c'était un peu un truc que tu revendiques dans plein de morceaux,
ouais.
La débrouille, comment elle t'a forgé et comment finalement parfois la débrouille permet d'être meilleur? Vous avez 2 heures.
En réalité, je ne dirais pas que la débrouille m'a forgé, mais ça fait partie des trucs qui... ça fait partie des vilains dépôts, en réalité. Parce que quand tu fonctionnes vraiment très, très souvent à la débrouille, tu commences à trouver une super aisance et à te complaire dans le sacrifice, tu vois. Et ça fait partie des trucs pour lesquels je suis devenu un loser sentimental. Parce que moi, habitué au sacrifice, je ne comprenais pas que mes partenaires ne puissent pas se priver de certaines choses. Donc, je te dirais que, en réalité, la débrouille, c'est whack, c'est nul. Et c'est ce qui fait que j'ai comme fer de lance de ne pas faire ressentir la tonne de sacrifice qu'il y a quand on veut pratiquer un métier de lumière, d'art et du spectacle à mon fils, parce que voilà, c'est moi qui ai fait ce choix-là et il n'a pas à en pâtir.
Et on associe souvent la débrouille à la galère.
Ouais.
Avant d'en arriver là et d'être applaudi et avoir faire des scènes, ouais. T'as aussi officié, si je puis me permettre, dans le métro.
Ouais.
T'as aussi connu des moments moins glorieux. Ouais. Mais ça raconte quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est à quel point faut faire des flops, comme tu le dis dans un morceau éponyme, mais à quel point faut flopper pour réussir.
Oui. Ben déjà, tu me permets de corriger le tir, parce que les gens pense souvent que j'ai joué dans le métro parce que j'en avais besoin.
Je voulais te tester.
Ouais, c'était vraiment juste pour me tester, et j'estimais que mes super copains du métro boulot dodo étaient le public le plus difficile à convaincre, et que si une composition passait dans les tunnels là,
ça pouvait passer partout. Ouais, je comprends. Mais du coup, ça ajoute un petit peu quand même une petite notion d'ego là-dedans. Parce que faut quand même en avoir un petit peu pour se dire, je vais me frotter à ça et ça peut potentiellement plaire. L'ego, comment tu l'as dosé et comment tu l'as géré, et à quel point c'est un ingrédient de ta recette aujourd'hui?
Vous pouvez répéter la question.
Non, mais il faut avoir de l'ego, justement, comme tu disais, pour aller dans le métro et se tester auprès de gens.
Ouais.
L'ego, il est important quand on est artiste, quand même, mine de rien. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui n'aient absolument aucun ego. Je crois que ça existe.
Mais je pense qu'à l'époque, j'étais juste fou.
Ouais.
Tout simplement. Tu vois, je ne pensais pas à ça. Et c'était aussi très, très amusant d'énerver les copains de la RATP Sûreté. C'était très drôle de shipper la place à un accordéoniste, tu vois. C'était ce truc de petit con, en réalité. Et puis il s'est passé de belles choses, les gens qui écrivent des petits messages sur des billets, ou on commence dans le métro et puis ça finit en soirée chez quelqu'un qui nous invite en fait à jouer à la maison. On se retrouve dans une super baraque. Puis il y a eu de très jolies choses. J'ai des amis qui ont été repérés par des chasseurs de têtes, qui ont fait l'émission avec les chaises qui se retournent, et qui ont eu un beau parcours et tout. Juste après ces aventures, voilà, je vous raconte un petit peu les 400 coups, et je vous dis ce que je préférais, moi, c'était être payé avec toute cette petite monnaie et manger directement au restaurant, dans des grands restaurants, avec cette monnaie, et payer à la fin et voir la tête des gens quand on vidait
avec toutes les pièces.
Les pièces, c'était super.
Est-ce que le restaurant, ça a été un...
J'aurais dû faire ça chez toi.
Franchement, c'est clair, je t'aurais reçu, je t'aurais très très bien reçu. Justement, le restaurant, pour toi, est-ce que c'était un truc... est-ce que tu idéalisais le restaurant? Est-ce que déjà tu avais l'habitude d'aller au restaurant plus jeune? Et est-ce que tu idéalisais le restaurant? Et est-ce que tu as un souvenir de restaurant où tu es rentré la première fois, tu l'as payé, tu t'es dit, ah tiens, là je suis au restaurant. Là, c'est un vrai restaurant.
Non... En réalité, si je te parle avec des yeux d'enfant, tu sais, t'as des trucs Planète Hollywood, ça n'existe plus.
Non, c'est vraiment, faut avoir vraiment plus de 40 ans pour en parler. Non, vraiment, c'est sûr.
Ben voilà, ouais. Ben ce truc-là,
ouais.
Faut savoir qu'il y avait des accessoires qui venaient de films iconiques, ou des statues, je sais pas, Stallone, je dis Rocky, tout ça. Donc j'étais très content de...
C'était une sorte de dîner américain, pour ceux qui ne savent pas. C'est une sorte de dîner américain qui ressemblait vraiment à celui des films. Donc effectivement, on pouvait fantasmer. Je peux comprendre le petit fantasme d'aller s'asseoir là.
Voilà.
Et d'imaginer manger comme dans Pulp Fiction.
Exactement. Et ben c'était ça, ouais, le truc. Pouvoir manger un petit peu la même chose que les héros des petites boîtes.
Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'était quand même les premiers... Ok, mais c'est marrant, parce que c'était aussi un fantasme culturel aussi.
Ouais, totalement. Mmh. Totalement.
Et justement, tu me racontais qu'avec ton fils, la tradition du restaurant, tu l'avais instaurée assez rapidement.
Ouais.
Et lui, dès le début, pour lui, c'est un kiff de... Le restaurant est déjà un kiff.
Ouais, ok. Donc tu voulais m'amener là-bas. C'est... Ouais, il faut savoir que mon fils est complètement fou et que... et qu'on a pour coutume de... manger après son premier entraînement le mercredi de foot dans une petite guinguette sympa. Et le gars commande toujours entrecôte.
Il a 6 ans.
Entrecôte, frites, il a 6 ans, voilà. Et 45 minutes après, il a entraînement de basket.
Ça, c'est la classe. Voilà. Ça, c'est cool.
Voilà, je ne sais pas comment il fait, je ne sais toujours cool. pas. Mmh. Mais oui, ça devient un marqueur et c'est toujours extrêmement lié au bonheur. Il a déjà ses restaurants préférés. Et puis, voilà, je suis content de partager ça avec lui. C'est notre truc, en tout cas. La bouffe, c'est notre truc.
C'est aussi mon truc, c'est qu'on s'attend bien.
Ouais.
Ce sera bientôt notre truc aussi, d'ailleurs.
Oui.
On va prévoir ça. Au rayon, justement, des gens que tu aimes bien inviter au restaurant, il y a aussi tout un écosystème autour de toi qui s'appelle Fufun Palace,
ouais.
Que vous avez créé notamment sous la houlette de Luigi.
Ouais.
Cet écosystème-là, comment il t'a permis d'évoluer en collectif? Comment le collectif est important pour toi? À quel point il est important pour toi aujourd'hui, pardon? Et à quel point justement cet esprit de brigade presque est important pour vous tous au sein de Fufun Palace?
Pour te parler des autres, en vrai, c'est ce qu'on appelle une bromance. Mm-hmm. Tu vois, on a arrêté. c'est en réalité c'est juste un cadeau d'avoir fait les choses dans la difficulté et de voir un ciel dégagé, bien plus dégagé, avec la même équipe. Et ça fait partie de mes satisfactions préférées. Mm-hmm. J'en ai beaucoup. Ouais. Mais celle-là, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir être un modèle économique, un modèle aussi dans la musique, tout simplement. Parce que c'est souvent décrit comme une industrie où il faut jouer des coudes, faire des trucs un petit peu crapuleux.
Ouais.
Et je pense que on a été plusieurs fois leader par l'exemplarité avec ce collectif-là, quoi. Parce qu'on voit beaucoup de groupuscules.
Émerger, évidemment.
Émerger et le faire vraiment comme nous, et sans vouloir faire l'ancien.
Ouais.
ça fait plaisir de voir les plus jeunes adopter le même modèle, quoi.
À quel point, justement, tu leur fais confiance sur leur goût? Parce que c'est toujours pareil. On va aller un peu sur l'histoire, ouais, du goût, parce que, voilà, pour le coup, encore une fois, on relie nos deux mondes, mais le goût, il est quand même assez, à la fois, tout le monde va dire, c'est subjectif, d'autres vont dire que c'est plus partagé par le plus grand nombre, que c'est vraiment la force du plus grand nombre qui fait foi.
Ouais.
Comment on arrive justement à autoriser les goûts des uns et des autres dans un collectif comme le tien? Et comment justement vous arrivez à vous entendre sur vos différents goûts pour faire de la si belle musique?
Ben déjà, il y a beaucoup de choses communes. On a écouté les mêmes choses sur une longue période, parce qu'on était vraiment 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 collés. On avait un espèce de QG, pour pas dire une garçonnière,
tous ensemble.
Voilà, tous ensemble. beaucoup plus jeune. Donc, on écoutait vraiment les mêmes trucs. Et puis après, on apprend à y greffer des influences, justement, les disques qu'il y avait chez nous. On n'avait pas forcément les mêmes. Comment faire découvrir à tout un chacun voilà, le background, comme dirait DJ Snake.
Ouais.
Tu vois ? Et c'est pas vraiment difficile. Après, maintenant, au niveau de la créa, faut savoir qu'on n'est pas tout le temps tous ensemble en studio. C'est même plutôt rare. Mais avant de sortir, on aime bien se montrer les devoirs.
Ouais.
Je veux dire, voilà, j'ai fait ça.
Et justement, sur la création, à quel moment, toi, dans quelles conditions tu dois être, toi, pour créer ? Est-ce que tu as des conditions parfaites réunies pour créer, ou est-ce que tu finalement t'as l'impression que tu peux créer partout tout le temps?
Ouais, je déteste les studios aseptisés.
Ouais.
Dès que ça devient trop Alexa, moins de lumière, s'il te plaît.
Ça ne va pas.
Ouais.
Ça aurait été énorme qu'elle baisse vraiment la lumière. Ouais. Ça aurait été très drôle.
Tu vois, ça, j'y arrive pas. Il faut qu'il y ait un petit peu de jolis tapis. De belles odeurs. De toute façon, je viens avec ma sauge parce qu'il y a beaucoup trop
avec
de...
Avec ta sauge.
Ouais.
Ok, donc tu purifies l'air avant de créer.
Trop peur qu'un mauvais artiste
soit passé juste avant.
Exactement.
Et te refile le mauvais
oeil. Exactement, t'as tout compris.
Et sur l'inspiration, maintenant qu'on a fait de la création, sur l'inspiration, est-ce que t'es encore surpris parfois d'être attrapé par une seconde de vie ou un regard ou par un moment et te dire putain, ça m'inspire ça. Est-ce que ça te surprend encore et, ou est-ce ou, globalement, qu'est-ce qui t'inspire globalement?
Totalement. Un de mes plus gros défauts, c'est que je lis très peu, mais par contre, j'écoute vraiment. Donc, je suis perpétuellement inspiré par des tonnes de conversations. Je suis le mec qui parle dans le Uber.
Ah.
Tu vois ?
Genre, tu acceptes qu'il te raconte l'histoire, tu acceptes ça ?
Totalement.
Je joue ce jeu.
Totalement.
Okay. Même tu alimentes le jeu, en fait.
Oui.
Okay.
Ça me donne envie de vérifier ma note. Là.
Okay. Je pense que tu as une très bonne note si tu parles à tout le monde.
J'ai une bonne note.
Ok, très bien.
En général, c'est ma mère qui fait baisser ma note.
Ah, ouais, évidemment.
Ouais. Parce qu'elle dit, ouais, pourquoi vous passez par là, tout ça ?
Elle embrouille.
Madame, c'est Waze, j'en ai rien à foutre. En général, ça baisse quand... Ouais.
Alors que toi, tu écoutes et tu parles.
Ouais, j'écoute, je parle, et vraiment, vraiment, je suis curieux, donc un rien m'inspire, moi.
Et alors, justement, tu parlais de... du Uber, etc. Et de là, du coup, ça m'emmène sur la consommation, sur la manière dont les gens peuvent consommer ta musique.
Ah, ok, j'ai cru que tu allais parler de la consommation de Uber Eats.
Ah non, j'allais vraiment. Est-ce que tu as une réduction avec Street Bangkok? Non, sur la consommation de ta musique. Aujourd'hui, quand on est artiste, comment on arrive à presque parfois accepter qu'elle soit, on pourrait dire, mal écoutée?
J'accepte pas ça.
Ah ok, c'est carré.
Non, c'est vraiment un truc que je vis très très mal parce que je suis amoureux des belles histoires et des formats audio qui se suivent. J'aime bien que les gens ferment les... On dirait que je donne le didacticiel.
Ouais, c'est ça.
Mais
t'as
j'aime bien
de la sauge.
Que... on a compris. J'aime bien que les gens ferment les yeux et les images. Mm-hmm. Et puissent avoir leur film à chaque fois. Et là, c'est devenu très difficile, et pour moi, le premier, d'écouter tout un album sans se faire snatch par une story. Tu vois, OK, j'écoute le truc, je pense être concentré, je regarde la story. Ah, il y a une petite ambiance là.
Ouais.
Ok, j'ai envie de mettre le son. Okay. Donc j'écoute, puis au final, j'oublie que j'étais en train de d'écouter un album. Donc en réalité, voilà, mes plus grands ops sont les réseaux quand on consomme la musique que je fais.
Et est-ce que parfois tu penses au moment où les gens vont consommer ta musique justement ? Est-ce que parfois quand tu la crées, tu dis ah, s'ils l'aimaient à ce moment-là ?
Ouais, ça arrive. Tu vois, pas avant de faire le morceau, mais une fois que tout est fait et que j'ai la bonne tracklist, je sais sur quel morceau il y aura des bébés.
par exemple. Je voulais aller jusque là, mais
tu par exemple.
Ah, tu m'as.
Par exemple.
Tu m'as eu. Hein, tu m'as eu, bravo.
Je sais. Mm-hmm. Je sais à peu près ce qui va nous faire un petit peu sauter en concert, et puis les morceaux qu'on va pas écouter 15 fois d'affilée.
Oui. Ouais. Une fois, ça va.
Une fois, ok, c'est bon.
T'écoutes Sorcière, t'écoutes Bruno, bon, t'es pas...
Ouais, enfin, Bruno, c'est bon, tu vois, tu le relances pas tout de suite.
Ouais, non. Vous écouterez Bruno, vous verrez pourquoi faut pas trop l'écouter. Justement, sur la théâtralisation, tu parlais des concerts, mais sur la théâtralisation aussi, c'est un truc que t'as voulu pousser de plus en plus, que t'as vachement poussé là sur Les Amants Terribles.
Ouais.
T'as voulu quand même raconter aussi une histoire et enrober un tout petit peu ta musique. Typiquement, on pourrait parler presque de dressage, quoi. C'est-à-dire que tu avais déjà les ingrédients, là tu as dressé de manière très jolie pour encore plus toucher de gens et pour aussi être pour exister aussi visuellement.
Ouais.
À quel moment tu as commencé justement à te dire putain, c'est un truc que j'ai envie de développer, qui est un truc en vrai plutôt anglo-saxon, d'enrober autant sa musique et puis même presque de jouer à la comédie et presque théâtraliser ça, c'est presque anglo-saxon. Donc c'est assez marrant de vouloir pousser ce biais-là encore plus.
Ouais. Il faut savoir que comme ma musique est très très introspective, y a des trucs que j'aimais pas forcément donner avant. Par exemple, les tranches de rire, en général, c'était vraiment pour les copains, pour le collectif et tout ça. Ouais. Et je me gardais le côté entre guillemets
deep et profond.
Loufoque. Mmh. Et je pense que ça me vient de, très honnêtement, ça me vient de Nifa, qui est dans notre équipe, qui m'a dit, ça serait bien que tu leur en donnes un petit peu. T'es pas obligé de donner tout le temps, mais vas-y, montre ça, parce que sinon, on aime bien ça. Je pense que les gens vont aimer, et je pense que ça a été le switch, voilà. Pas que, voilà, je suis très souvent goofy, je rigole beaucoup et tout, mais c'est pas quelque chose que je montrais énormément lors des clips, etc., etc. Et là j'avais envie de le faire pour le coup.
Bah, et est-ce que c'est pas ça aussi prendre confiance entre guillemets en soi, que d'effacer un peu le personnage au profit finalement de la personne, de plutôt se révéler, quoi.
Je dirais que c'est une petite prise de confiance.
Ouais.
Ouais. Et sachant que les clips précédents, enfin sur les anciens opus, on devait me voir 8 secondes par clip à l'image, donc c'est vrai que c'est une forme d'assurance. Ouais, j'ai pris la confiance. Ouais,
t'as pris la confiance.
T'as raison.
Mais c'est une prise de confiance, mais aussi, de l'autre côté, une prise de risque. Et ça, c'est assez intéressant dans le milieu artistique en général. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que même si tu me dis oui, j'ai plein d'influence et j'ai envie d'en mettre dans ma musique, etc., c'est évidemment super. Mais je pense aussi que le risque de pas forcément plaire ou le risque de faire un truc qui est pas forcément attendu te maintient aussi un petit peu en éveil et stimulé par ce petit risque-là. Ça crée tout le plaisir de l'acceptation derrière.
Mm-hmm. Moi, de toute façon, je te l'ai dit un petit peu avant, je suis très fan du contre-pied et je crois deviner que c'est quelque chose qui plaît aux gens qui m'écoutent, de pouvoir lancer un projet sans savoir ce que je vais faire.
Ouais.
Voilà, donc, c'est un truc que j'apprécie. Mais qui
gueule? Oh! Il y a un stagiaire qui se fait engueuler derrière nous. Mais en même temps, tu veux que les gens soient plutôt surpris quand ils écoutent ta musique, mais tu as quand même envie de créer un fil rouge et une continuité.
Ouais.
À quel point Thury tient à raconter des histoires dans ses morceaux ? À quel point raconter des histoires, ça reste quand même pour toi le thème central ?
En réalité, je le fais, mais sans calcul. Par exemple, en ce moment, je sais que j'ai déjà des morceaux fleuves qui racontent bien le cœur de l'histoire.
Ouais.
Et c'est la première fois que ça se passe comme ça, parce que je préfère faire les morceaux fenêtres d'abord, donc les morceaux un peu plus faciles, et après je passe au truc un peu plus deep. Et là, j'ai inversé. Donc en réalité, ça change tout le temps.
Et justement, sur les prochaines créations,
ouais.
Est-ce que tu sens déjà que tu as déjà changé ? Est-ce que tu sens déjà que par rapport aux Amants ouais. Terribles, tu as déjà changé ?
Ouais, carrément.
Mais du coup, on est proche du chef qui est lassé de sa carte, en fait. Très vite, tu peux te lasser.
Écoute, c'est pas que je suis lassé parce que j'aime toujours mon bébé, mm-hmm. et surtout la manière dont il a été conçu.
Entouré de compositeurs brillantissimes. Exact.
Ça devient bizarre comme conversation.
Ok.
Non, ouais. Donc, je suis très très fier de cet album, mais en même temps, je sais que je suis déjà ailleurs, et c'est une figure imposée dans ce métier de devoir défendre tout en pensant à la suite, parce que les choses vont très très vite, surtout en musique.
Mais du coup, c'est assez lié aussi à ton humeur, mm-hmm. et à tes moments de vie.
Ouais.
Comment on fait pour que l'humeur du moment, elle perdure longtemps, qu'elle soit pas désuète très vite? Comment on fait justement pour gérer ce...
En réalité, je me pose pas souvent la question. Mm-hmm. Et puis quand tu vois un petit peu le temps qu'il y a entre les projets que je sors, il y a une moyenne de 2 ans, 1 an et demi pour mentir. Tu vois, donc je me laisse quand même le temps de vivre. Et quand c'est lié à l'introspection, forcément, tu es obligé d'abord de vivre des choses avant de les raconter.
Eh bien, on te souhaite d'en vivre plein de belles choses avant Merci. Que tu nous racontes encore des choses.
Ouais.
Je pense qu'on peut applaudir très fort Thury pour ce
ouais.
très bon moment qui s'achève. J'espère que vous en avez appris plus sur cet artiste que j'aime beaucoup, cet homme que j'aime beaucoup également.
Ouais.
Et j'étais ravi de partager ce moment avec vous.
J'ai une question.
Dis-moi tout.
Avant, c'est quoi ton plat préféré?
Ok, donc
non, regarde.
On repart sur une heure d'interview.
Regarde.
Ouais, dis-moi.
Plus précisément, tu vas sur. Tu es condamné
ouais.
à vivre sur une île déserte.
Je pose souvent cette question. Vas-y.
Et tu es obligé de choisir un dessert, un plat de résistance et. Pardon, une entrée, un plat de résistance et.
Ok.
Un dessert.
En entrée. Je vais aller très vite parce que sinon ça va être long. En entrée, je ferai des acras parce que de toute façon, acras, valeur sûre, on adore. Super. En plat, je crois que j'irai sur un coq au vin. Très fancy, je sais, mais j'en ai rien à foutre, c'est mon dernier repas.
Bougie !
Que personne ne me juge. En vrai, dans ma tête, je me pense aux nuggets du McDo, mais on ne le dira pas. Et en dessert, on peut se faire kiffer sur une tarte au citron ou un baba au rhum, histoire de vraiment assurer mes arrières. Franchement, en plat du pied sécurité, faut finir en douceur et faut surtout bien manger. Okay. Ça te va ?
Ça me va.
Du coup, et toi ? On va finir sur ça.
Oh.
Ah, t'es coincé, t'es obligé.
Oh non. Alors.
Il voulait juste le dire depuis le début. C'est ça.
Non, pas du tout. Moi, je me trouve trop bête parce que j'ai même pas réfléchi à la ritournelle.
C'est con.
Entrée. Mozzarella stick.
Ok, ah ouais, toi t'es un kiffeur.
Je suis un kiffeur.
T'es un gros kiffeur, toi.
Ah, moi je m'en fous.
Ah ouais, non, mais j'aime bien. On est là pour être pour dire des choses.
Je pense que après, je prendrai le ndolé.
Évidemment.
Ouais, c'est super. Complet, mais genre ndolé royal.
La totale, crevette, tout.
Crevette, bœuf.
Pour ceux qui ne savent pas, on ouais. précise, tu peux préciser.
Oui, vas-y.
Feuille de manioc qui ressemble un peu à l'épinard à s'y méprendre et qui est garni généreusement exact. Avec de la viande ou des fruits de mer ou les deux si on a un gros kiffeur comme tu ris. Et servi avec du riz et ça, on peut en manger effectivement ouais. 2-3 plâtrés.
Voilà. Et dessert. Je pense il t'attend tout simplement.
Tu t'attends.
Ouais, avec. Oui.
Petite crème,
bien sûr.
Évidemment.
Crème ou la petite boule de glace vanille.
Évidemment.
Pour les gros gourmands.
Voilà. Et ben c'était la seule interview de tuerie où vous parlerez autant de vous. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir d'animer ça avec toi et de passer ce moment
moi
avec
aussi.
Vous tous.
Plaisir merci partagé. Infiniment.
Et bon festival à tous.
Merci, bon festival, bisous, voilà. Faites attention à vous.
Il fait bien, et puis on se quitte sur de la musique ?
Non.
J'ai essayé.
C'est toi qui décides.
J'ai essayé.
On met de la musique ou pas ?
On va se quitter sur de la musique, mais je ne crois pas que ça fonctionne. Donc
Voilà, le silence, c'est très bien. Ben, rentrez chez vous, bordel.
Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, merci.
T'as plu, j'espère.
Ouais, c'était trop bien.
Merci infiniment.
C'était trop bien.
C'était trop intéressant.